Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, les raisons d'un succès.
Bonsoir, merci d'être là pour cette première séance consacrée à la conclusion de cette année. Le plaisir n'est pas grand à être négatif. On a franchement envie d'être positif et de faire savoir que si un moment de négativité est nécessaire, c'est, soyons hegeliens, une fois n'est pas coutume, pour permettre une dialectique. Je crois à la dialectique, quelle que soit la discipline. Donc je proposerai une dialectique, quelque chose d'autre, une espèce d'ouverture pour que chacun puisse s'emparer de ce que ce cours aura été. Je pense que ce dossier mérite qu'on le fasse effectivement progresser, pas qu'on l'enterre une bonne fois pour toutes. Donc, vous avez vu ce qu'étaient les rapports de Freud à la vérité. Ce n'est pas franchement ce qui l'intéressait a priori, c'est plutôt la légende qui s'est construite, qu'il a voulu construire. Je pense effectivement que le monde, il l'a pensé à partir du 19 Berggasse, c'est-à-dire de l'appartement qui était le sien et de son petit cabinet, minuscule et presque ridicule, dans lequel le bureau, le divan, les livres, la bibliothèque font la loi, une espèce de loi qui fait que la vérité de son cabinet est plus vraie que la vérité du monde extérieur. On a vu également quel rapport ambigu il entretenait à la philosophie. Désir d'être philosophe, renoncement à la philosophie, lecture de Schopenhauer, avéré, lecture de Nietzsche, dénié, nous dira toute son existence qu'il ne l'aura pas lu, par peur d'y trouver ce qu'il savait qu'il y trouverait. Comment peut-on savoir qu'on trouvera quelque chose dans une œuvre qu'on n'aura pas lue et que ce quelque chose pourrait nous être utile ou nous faire de l'ombre, si ce n'est parce qu'on l'a lu. Et puis il découvre effectivement qu'on ne devient pas riche et célèbre avec la philosophie. En revanche, avec d'autres disciplines, la médecine peut-être, la chirurgie, la neuropathologie, le fait qu'on puisse être universitaire dans ces domaines-là, peut-être plus sûrement. On a vu comment la biographie déterminait la pensée de Freud. Ça, c'est une idée nietzschéenne, c'était l'idée de mon année, de dire qu'une philosophie, c'est toujours l'autobiographie de son auteur et la confession de son auteur. Donc ça marche pour Nietzsche, mais pour avant Nietzsche, pour après Nietzsche et pour Freud également. Le rapport à la science, on voit bien qu'il a été problématique, qu'il a voulu être scientifique, mais qu'il ne l'était pas, qu'il a souhaité s'inscrire dans le lignage de Copernic et de Darwin, c'est-à-dire des sciences sévères et austères, l'astronomie ou les sciences naturelles, et qu'il a souhaité faire de la psychanalyse une science. Et on a vu qu'en fait, elle n'était que cette autobiographie philosophique, une autobiographie existentielle, ce qui n'est pas rien non plus. Mais ça n'est que ça, ça ne va pas au-delà. Et l'idée qu'on puisse proposer une science universelle, planétaire, avec des conclusions définitives sur lesquelles il ne faudrait jamais revenir, puisque Freud les aurait découvertes une bonne fois pour toutes, ça évidemment, on a vu que c'était problématique. On a pu voir également que l'inceste était une proposition existentielle chez lui. On voit bien dans la lecture nietzschéenne que j'ai proposée que c'est effectivement un fantasme tout à fait particulier et que l'extrapolation de ce fantasme à l'universel va donner un complexe d'Édipe qui produira des effets considérables puisqu'aujourd'hui, la plupart consentent à cette fiction comme si c'était une vérité universelle. On a vu également comment il y avait un capharnaüm doctrinal dans la pensée de Freud, même s'il y a une espèce de vulgate aujourd'hui qui s'est cristallisée sur deux ou trois choses, le divan, l'inconscient, le complexe d'Édipe, le transfert, la résistance, une espèce de psychanalyse comme ça réduite à une dizaine d'articles de catéchisme. On s'est aperçu qu'il y a eu l'électrothérapie, la balnéothérapie, le fameux psychrophore, l'hypnose qui ne marchait pas, l'hypnose avec imposition des mains, l'hypnose de Breuer, et puis une espèce de pratique qui va devenir la psychanalyse, puisque la date de baptême, 1896, elle permet à Freud de dire « c'est moi », même si avant, on le verra bientôt, mais avant il y avait Breuer, et avant même, Freud a dit que l'inventeur de la psychanalyse, c'était Joseph Breuer, et pas lui, et que lui n'a fait que prendre le flambeau. Je proposerai également de voir que la psychanalyse, elle n'est pas la discipline de Freud, mais une discipline fabriquée avec ce que Bourdieu appellera plus tard un intellectuel collectif, et qu'il y a eu, après la fabrication de cette discipline par un intellectuel collectif, une confiscation de Freud qui nous a dit, un jour très précis, la psychanalyse, c'est moi et c'est personne d'autre. Et j'organise les choses pour que toute éviction soit prononcée à l'endroit de celui qui nous dira que la psychanalyse, ça peut être aussi lui, voire Adler, voire Jung, voire Ferenczi et quelques autres. Il y a également une mythologie qui court, les fameuses légendes et les cartes postales dont je vous ai parlé en début d'année, en vertu desquelles, cartes postales, Freud aurait été un inventeur, un découvreur de génie, tout seul, solitaire, et qu'il lui aurait suffi de plonger dans son inconscient, comme d'aucuns s'embarquent sur des galions pour découvrir un continent nouveau, et bien lui, il s'embarque sur cette espèce de galion qui est son auto-analyse pour découvrir des choses effrayantes, monstrueuses, mais magiques et magnifiques. C'est du moins ce que la légende dorée rapportée par Ernest Jones raconte, alors qu'en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu vraiment d'auto-analyse au sens où la légende le dit, c'est-à-dire entre telle date et telle date, mais que toute la vie de Freud aura été une auto-analyse malgré lui. Et que la psychanalyse, et ça a été ma thèse en début d'année, la psychanalyse c'est l'auto-analyse de Freud, ça se réduit à l'auto-analyse de Freud. Il nous a également dit qu'il avait beaucoup travaillé sur la clinique, ce qui a beaucoup impressionné, c'est-à-dire qu'on considère que le personnage eh bien effectivement, s'appuie sur des données concrètes, tangibles, empiriques. Il a rencontré des gens, écouté des gens, soigné des gens, guéri des gens. Il a écouté des pathologies, ces pathologies ont disparu. Il nous dit que pour élaborer sa théorie de la séduction, il a travaillé sur 18 cas. On découvre évidemment, grâce aux historiens des idées, qu'il n'y a jamais eu 18 cas, que si vous croisez la totalité des lettres envoyées à Fliss, les lettres qui nous restent, eh bien, on découvre que Freud nous dit qu'il a du mal à avoir des clients, des patients, et qu'à l'évidence, il n'a pas pu soutenir sa théorie sur une pratique, que simplement, il a extrapolé à partir de lui-même. Son objet d'analyse, c'est lui, beaucoup plus que les patients qui auront été les siens. Il y a eu, bien sûr, des falsifications de résultats. On le sait, il a fait savoir à chaque fois qu'il a psychanalysé un cas et qu'il en a fait un cas emblématique pour la psychose, pour la névrose, pour la paranoïa, pour la schizophrénie. Vous souvenez-vous de la séance consacrée aux 5 psychanalyses, il nous a dit qu'il avait guéri tout le monde, sauf le président Schreber, puisqu'il n'a jamais rencontré proprement parlé, mais les 4 autres, Petit Hans, Homo Lou, Homo Ra, etc., le cas d'Ora, ce sont des gens dont il nous dit qu'ils ont été guéris. Et on a découvert qu'il n'y avait pas de guérison. Le fameux Homme au Lou qui est censé être guéri en 1918, il rencontre une journaliste en 1974 et qu'il est toujours malade et toujours en analyse et qu'il mourra nonagénaire et que nonagénaire, il sera toujours en analyse. On a découvert ce qu'étaient les causalités magiques pour Freud, l'idée qu'une chose n'est jamais une chose, mais c'est que Freud veut qu'elle soit. C'est-à-dire, si vous rêvez d'un chapeau, souvenez-vous, c'est pas un chapeau, c'est l'organe phallique de votre mari, etc., etc. Enfin, tout ce que j'ai appelé les causalités magiques qui tournent le dos, évidemment, aux causalités rationnel. Le fameux mythe scientifique, c'est entre guillemets, puisque c'est une expression, comme vous le savez, qu'on trouve dans Totem et Tabou, alors qu'il en va là d'un des plus beaux oxymores de l'histoire de la pensée occidentale, puisque le propre du mythe, c'est d'être une pensée pré-scientifique, et que le propre de la science, c'est de faire fi de tous les mythes. Donc un mythe puisse être scientifique, c'est assez singulier, mais c'est la théorie avancée par Freud dans Totem et Tabou. La fameuse pensée symbolique, qui est l'occasion de dire tout est le contraire de tout, ceci n'est pas ceci, mais cela, simplement parce qu'il y aurait du caprice freudien à considérer qu'à chaque fois que vous rêvez d'un objet contendant, c'est toujours un phallus qui est en jeu et qui est scénographié et théâtralisé. Alors effectivement, cette pensée symbolique vous permet de tout dire. J'ai eu l'occasion de vous dire qu'il y avait ce petit texte qui s'appelait « La négation » et qui est un texte extraordinaire de sophistique et de jésuitisme, puisque Freud nous dit que l'affirmation sur le terrain de l'analyse, c'est très exactement la négation, et que la négation, c'est l'affirmation. Armé avec une dialectique pareille, vous pouvez effectivement faire dire tout ce que vous voudrez à un rêve, à une histoire, à un fantasme ou à une narration de tel ou tel type de problème que vous auriez pu rencontrer dans votre enfance ou dans votre prime jeunesse. Il y a la fameuse logique chamanique, l'idée que le chaman, il guérit parce qu'il est chaman. A priori, rien n'est encore dit, mais dans la relation, quelque chose va se faire et qui va soigner, qui va guérir d'une certaine manière. Pas toutes les pathologies, bien sûr, mais une bonne partie, l'effet placebo. Logique chamanique, je n'ai pas Je n'ai pas considéré que la psychanalyse ne fonctionnait pas. J'ai dit qu'elle fonctionnait dans la limite de l'effet placebo, ce qui fait déjà beaucoup. Certains articles scientifiques font savoir que l'effet placebo, c'est à peu près 30% d'une thérapie. Donc si déjà la psychanalyse soignait à hauteur de 30%, ce serait pas mal. Nous avons vu également qu'il en allait d'un pessimisme ontologique radical et que Freud pense que le pire est toujours certain, que la pulsion de mort, elle est inscrite dans le plasma germinal, que le plasma germinal, c'est ce qui nous constitue, et que biologiquement, les choses sont ainsi faites que la vie, selon le fameux principe de Nirvana, tend perpétuellement à revenir à l'état d'avant la vie, c'est-à-dire que le propre de la vie, c'est la mort. Freud nous dit donc que rien à espérer d'un monde dans lequel il y a de la pulsion de mort, de la destruction, de l'agressivité, et qu'il faudra compter avec ça. Ce pessimisme ontologique, j'avais tâché de montrer qu'il était en relation avec ce qu'on appelait les antiphilosophes au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des gens qui sont très opposés aux encyclopédistes, des gens qui considèrent effectivement que la raison ne fait pas la loi, mais que les passions font la loi, en l'occurrence ici l'inconscient, qui est l'une des variations sur le thème de la passion, et qu'on ne peut pas progresser, qu'il n'y a pas de progrès dans l'histoire, comme le pensaient les encyclopédistes, mais que tout se répète éternellement, qu'il y a une espèce d'éternel retour de la négativité, retour éternel de la pulsion de mort, et qu'il faut compter avec ça. Freud nous fait savoir également que dans sa vie, pour le coup, et concrètement, pas seulement dans ses œuvres, qu'il avait un intérêt particulier pour le césarisme autoritaire, pour ne pas dire le fascisme. On a consacré une séance à montrer que Freud avait une passion soutenait l'austrofascisme du chancelier Dollfuss, qu'il a rédigé une dédicace élogieuse à l'endroit de Mussolini, et qu'il a travaillé avec Félix Böhm, un envoyé du Troisième Reich, de l'Institut Göring, pour que la psychanalyse puisse continuer à exister sous le Troisième Reich et qu'elle ne soit pas persécutée en tant que telle. Elle ne l'a pas été, contrairement à ce qu'on dit. Les juifs ont été persécutés, mais pas les psychanalystes, alors que les psychanalystes juifs l'ont été, bien sûr, mais pas comme psychanalystes, comme juifs. Donc, effectivement, compagnonnage avec un césarisme autoritaire. La fameuse phallocratie de Freud, qui considère qu'une femme se définit par le pénis manquant, et qu'une femme, ça n'est jamais qu'un homme inachevé, ou un homme inaccompli, que ce que veulent les femmes, c'est le phallus qui leur fait défaut, ce qui constitue donc en même temps la phallocratie, c'est-à-dire le pouvoir du phallus. On a vu également que cette phallocratie, elle se doublait d'une homophobie ontologique, puisque pour Freud, un homosexuel, c'est quelqu'un d'inachevé, qui s'est arrêté en cours de route sur son trajet libidinal, puisque un trajet libidinal digne de ce nom, ça vous conduit du stade oral à la génitalité, qui suppose la conjonction de deux organes sexuels, d'un homme et puis d'une femme, dans la perspective familialiste d'engendrer un enfant. Freud nous fait savoir qu'un homosexuel s'arrête en cours de route, qu'il est incapable d'une sexualité par étayage, c'est-à-dire par choix d'un objet qui ne serait pas lui. L'étayage suppose que vous alliez chercher vos modèles auprès de ceux qui sont avec vous, donc vos parents, mais que l'étayage dont l'homosexuel est incapable et se trouve remplacé par un amour narcissique, puisque l'homosexuel, nous dit Freud, c'est celui qui n'aime que lui et qui veut retrouver une occasion de s'aimer, donc homophobie. On a vu également qu'il n'y avait pas de libération sexuelle chez Freud, et que ça, c'est une espèce de mythologie rendue possible par mai 68, on en parlera un petit peu plus dans la séance suivante, et le freudomarxisme, une espèce d'usage révolutionnaire de Freud que Freud n'aurait pas beaucoup aimé. Freud fait savoir, en bon nietzschéen, qu'une civilisation se constitue avec la négation des passions, des pulsions et des instincts, et que cette négation cristallise des formes sociales qui vont donner la morale, qui vont donner le droit, la loi, etc. Nietzsche ajoute qu'il faut faire exploser tout ça. Freud, lui, fait savoir qu'il ne faut pas toucher à tout ça, puisqu'on a besoin de ça pour que la civilisation puisse être. Et lui, il défend la civilisation et pas l'individu. Il considère qu'on ne change pas la société, que ça ne produirait aucun effet, mais qu'éventuellement, on touche les individus. Et que ces individus-là, eh bien, la solution elle est toute simple, ils n'ont qu'à s'allonger sur le divan, etc., etc. C'est tout ce qu'on a vu cette année. Donc, on découvre tout ça. Et on peut se poser comme question, mais pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça a marché s'il y a eu une affabulation pareille, s'il y a eu des mensonges comme ça, si le personnage a fabriqué une légende à laquelle beaucoup ont cru, au point qu'aujourd'hui la psychanalyse est devenue une espèce d'acquis de nos civilisations et que même si les gens ne sont pas très frottés de psychanalyse et n'ont pas lu Freud, il y a une espèce de vulgate qui fait que sublimation, lapsus, acte manqué, relation édipienne, enfin toutes ces choses-là sont plus ou moins intégrées dans le bagage intellectuel de tout un chacun. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis contenté d'une espèce d'esquisse à charge pour d'aucuns, soit de développer, de préciser. soit d'ajouter, parce que bien sûr j'ai proposé 5 raisons possibles, mais évidemment il y en a plus que ça, il y en a d'autres, et autant qu'on voudra. Dans les 5, par exemple, je ne parle pas de la réception française, qui est une réception littéraire, grâce à Apollinaire, grâce aux surréalistes, grâce à André Breton, grâce au fameux manifeste du surréalisme, grâce au futurisme d'une certaine manière, qui lui a à voir avec la guerre 14-18 et le nihilisme produit par la guerre 14-18. Il faudrait parler, j'ai déjà eu l'occasion d'en dire deux mots, du rôle d'André Gide, de la passion de Gide qui va convertir Gaston Gallimard, de la maison Gallimard qui va devenir freudienne, qui va commencer à éditer, traduire, diffuser Freud. Enfin, il faudrait aussi montrer tout ça, c'est-à-dire une espèce de légitimité littéraire qui contribue, elle aussi, à faire de telle sorte que cette affabulation puisse devenir une vérité historique, jusqu'à ce qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, des historiens bien avisés aient commencé à produire un vrai travail critique sur cette légende, en disant « attention, légende, faisons de l'histoire, voici ce que nous pouvons désormais dire ». Et j'ai rendu hommage, et dans ces heures de conclusion, je voudrais rendre hommage à nouveau à tous ces historiens sans lesquels mon travail n'aurait pas été possible. Donc mon travail, je le reprécise, il n'a pas été question pour moi de découvrir des choses que d'autres auraient déjà découvertes, mais de proposer une lecture nietzschéenne de l'œuvre de Freud, de montrer que le freudisme était une autobiographie existentielle et que dans cette perspective-là, Freud était un philosophe, comme l'éducation nationale nous fait savoir, c'est-à-dire entre Kant et Sartre, si on veut, et que ça n'était pas rien que d'être un philosophe, mais que ça n'était pas tout, et qu'à partir de cette remise à niveau, eh bien, pour le coup, on pouvait supprimer la légende, travailler dans l'histoire, et puis faire de ce philosophe ce qu'on peut faire avec Descartes ou Saint-Augustin ou Sénèque, c'est-à-dire le réactualiser, le réactiver, penser avec lui, mais penser debout, et pas penser à genoux. Première raison qui pourrait expliquer le succès de Freud, du freudisme et de la psychanalyse, l'idée que, d'un seul coup, et avec lui, le sexe rentre dans la pensée occidentale. En fait, on peut le dire, il y a eu sur notre territoire européen 25 siècles de pensée célébrant ce que Nietzsche appelait l'idéal ascétique. Refus des désirs, refus des passions, refus des pulsions, méfiance à l'endroit des instincts, célébration d'une âme immatérielle, célébration de l'esprit, considération que l'essentiel était dans l'esprit, et notre civilisation, elle s'est construite là-dessus. Le christianisme a fait la loi. Et effectivement, la proposition chrétienne, elle est toute simple, elle nous invite à l'imitation, vous savez, le succès qu'a eu la fameuse imitation de Jésus-Christ, et de fait, il faudrait montrer que le christianisme hérite d'une pratique de la philosophie antique qui était un exercice spirituel, qui était l'exercice de l'imitation. Et on propose des imitations qui, effectivement, sont susceptibles de générer des névroses, puisqu'on vous demande d'imiter soit le corps de Jésus, qui est un corps angélique, c'est-à-dire un corps qui n'a pas de sexe, un corps qui n'a pas de désir, de passion, de pulsion. On vous demande d'imiter le corps du Christ, qui pour le coup est un corps supplicié, un corps maltraité, un corps sanguinolent, un corps qu'on a tué. Et on vous dit ressembler au Christ sur la croix. Et puis pour les femmes, c'est encore pire, soyez vierges et en même temps faites des enfants. Donc effectivement, imiter le corps d'un ange, imiter le corps d'un mort ou imiter le corps d'une vierge mère, ça ne peut que générer des névroses, des problèmes avec son propre corps, et Freud aura beau jeu de dire un peu plus tard qu'il existe effectivement une étiologie sexuelle des névroses. On ne peut pas lui donner tort sur ce terrain-là. Cette philosophie qui a été la nôtre, la philosophie officielle, la philosophie dominante, elle a été une philosophie idéaliste, dualiste, spiritualiste, chrétienne, et quand vous prenez Descartes, Kant par exemple, ou d'autres, jusqu'à Sartre, vous voyez la nausée, et vous verrez effectivement qu'il y a une espèce de mépris du réel, de dégoût à l'endroit de la viscosité du monde ou de la nature matérielle et concrète du monde qui, effectivement, sont très emblématiques de la philosophie dominante. Donc il faut composer avec ça. Certains ont composé, et d'une manière assez singulière, et soit le sexe a été absent, on n'a pas parlé du sexe, donc chercher dans Descartes, chercher dans Kant, par exemple, vous n'aurez rien du tout. Vous avez quelques considérations sur la jouissance du corps de l'autre dans le mariage, dans la doctrine du droit chez Kant, mais pas de considérations sur la jubilation sexuelle, sur le sexe en général ou en particulier. Et quand il a été question du sexe, ça a été soit chez Sade, par exemple, ou chez Bataille, au XXe siècle, qui sont d'une certaine manière des chrétiens inversés, mais qui restent des chrétiens. Si vous lisez La Légende dorée, qui est de Jacques Voragine, le grand best-seller du Moyen-Âge, qui vous invite à ressembler à des saints, donc à Sainte Brigitte, à Sainte Catherine, ou à Saint Antoine, ou à Saint Michel, ou à Raphaël, ou aux archanges, etc., on vous invite à vivre leur vie. C'est-à-dire à jouir d'être décapité, éviscéré, d'être tenaillé. Enfin, c'est ce qu'on propose pendant des siècles comme modèle existentiel et comme modèle existentiel sexuel. De sorte que les 120 journées de Sodome de Sade ou Madame Edvarda de Bataille sont des textes très chrétiens, en ce sens, très gnostiques chrétiens, qui continuent à dire que la sexualité, c'est dégoûtant et elle n'est extraordinaire que quand elle jubile dans l'urine, dans les matières fécales, dans le crachat, dans le dégoût, dans la prostitution, dans la saleté, etc. Vous voyez, le bleu du ciel avec une héroïne qui s'appelle Dirty, il suffit de traduire chez Bataille. Enfin, ça a été ça, le sexe, pendant très longtemps. Soit oublié, négligé, soit maltraité avec des gens qui nous faisaient jubiler dans le dégoût du sexe. Freud n'aura pas eu besoin de ça, parce qu'il était juif, et donc ça dispense de cette haine du corps. Le judaïsme n'a quand même pas cette névrose que le christianisme a produite à l'endroit du corps ou à l'endroit de la chair. Donc Freud n'a pas senti le besoin de la transgression, de la loi qu'il faut maintenir, parce qu'il n'y aurait de jouissance que dans la transgression, une grande logique lacanienne. Lacan, pour le coup, était une formation chrétienne, maurassienne. Il n'a pas eu besoin de ça, il a simplement fait une lecture clinique du sexe, comme d'aucuns ont pu le faire. J'ai eu l'occasion de le dire avec Pierre Janet, qui nous disait que, grand psychanalyste français, pour le coup, auquel Freud a emprunté beaucoup de concepts, Janet disait que Freud avait pensé sa vision des choses de manière très pansexuelle, c'est-à-dire en voyant du sexe partout, parce que c'était Vienne. Et il n'a pas donné de précision, et Freud, très, très insinuant, dit « oui, ça veut dire parce que j'étais juif ». Alors que Janet n'a jamais considéré que c'était parce qu'il était juif, mais Vienne, ce n'était pas la judéité, c'était simplement le lieu de Sacher-Masoch, par exemple, la Vénus à la fourrure, c'était le lieu de psychopathia sexualis, puisque c'était le titre latin qu'avait choisi Kraft Ebing, c'était sexe et caractère d'Otto Weininger, enfin c'était un lieu où effectivement le sexe existait, mais d'une manière problématique, là où Freud considère qu'il n'est pas problématique, encore que, mais parce que lui le pense de manière clinique, par-delà le bien et le mal. Voilà pourquoi, quand il fait paraître en 1905 les trois essais sur la théorie de la vie sexuelle, théorie de la sexualité ou la théorie sexuelle, tout dépend des traductions, et Freud a beaucoup emprunté, mais bon, disons qu'il a fait une synthèse extrêmement intéressante, et ces trois essais concernent les aberrations sexuelles, la sexualité infantile et les transformations de la puberté. Les aberrations sexuelles, Freud nous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la sexualité, elle est faite pour être génitale. Vous avez des stades, et ces stades vous conduisent à la génitalité, un homme pour une femme, et tout ce qui n'est pas ça est perversion, mais perversion au sens amoral, je ne dirais pas immoral, mais amoral, sans morale. Donc il y a perversion quand il y a tout ce dont on parle dans cet ouvrage, c'est-à-dire zoophilie, passion pour les animaux, fétichisme, passion pour un objet sexuel particulier. Donc il nous fait savoir effectivement que les jeux sexuels sont divers et multiples, que les enfants ont une sexualité, que les enfants se masturbent, que les enfants ont des érections, qu'ils ont des jeux sexuels les uns les autres, et que tout ça est tout à fait normal. Il nous parle des plaisirs très anciens, de la succion ou de la défécation. Il nous fait savoir qu'aux deux extrémités du tube digestif, il y a des occasions de jouissance et de jubilation. Donc des considérations sur le sein de la mère, des considérations sur le pot de chambre, sur la maîtrise du stade anal et sur les jouissances qu'il y aurait à retenir ces matières fécales. La bisexualité, Freud nous apprend qu'il n'y a pas que des hommes ou des femmes qui seraient séparés et radicalement hétérogènes, mais qu'il y a du masculin et du féminin dans chacun, en parts diverses et multiples, des idées qu'il emprunte, et là il le dit, à Empédocle et à Platon, discours d'Aristophane dans le Banquet, qu'il y a des voyeurs et des exhibitionnistes, des gens qui jouissent de se faire voir, des gens qui jouissent de voir, que vous avez des sadiques et des masochistes, c'est-à-dire des gens qui jouissent d'infliger la douleur et d'autres qui jouissent de s'infliger la douleur, il y a des gens aussi qui sont sadomasochistes, et puis tous les autres fantasmes sexuels et des considérations claires et franches sur la sexualité des femmes, femmes clitoridiennes, femmes qui ont des plaisirs vaginales, du plaisir vaginal, et Freud nous explique, on a eu l'occasion de consacrer une séance à ça, que le bon plaisir c'est le plaisir vaginal, et que le mauvais plaisir est clitoridien. J'ai eu l'occasion de dire qu'il était mauvais probablement parce qu'il était plus facile à obtenir par les femmes, et que le bon, comme il était probablement plus difficile à obtenir à cause de l'impéritie des hommes, eh bien ça permettait à Freud, dans une logique un peu castratrice, en faisant cette proposition théorique. Donc ça, c'est une première raison, et on peut imaginer qu'elle aura beaucoup contribué au succès de Freud. Ça sent le soufre. Il y a de la sexualité, il est question de choses qu'on cache, qu'on réprime, de questions interdites. Il faut imaginer l'esprit de l'époque, fin du 19e, début du 20e siècle, on imagine mal. La pruderie est l'espèce de chape de plomb qui est mise sur toutes les questions du corps, du sexe, de la sexualité, de l'intimité de tout un chacun. Donc on peut imaginer que des livres qui très précisément nous disent que la vérité d'un être est dans l'usage qu'il a, l'usage qu'il fait de sa libido, ça peut contribuer à un certain succès. La deuxième raison est le fait que Freud a voulu l'universalité de sa discipline. Et de fait, plus le temps passe, plus je m'aperçois que les gens dont on parle en philosophie, plus les gens qui se trouvent dans l'histoire officielle de la philosophie, l'histoire institutionnelle, sont des gens qui ont voulu ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent créer une légende de leur vivant, et qui se donne les moyens de la créer, de la perpétrer, avec un certain nombre de disciples qui sont des gens extrêmement, extrêmement zélés et soumis, qui fabriquent une légende lourde, extrêmement lourde, et il faut du temps pour déconstruire cette légende. Surtout si vous avez eu l'occasion de la diffuser grandement et pleinement. Freud a fabriqué ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un réseau médiologique. Je renvoie aux travaux de Régis Debray et je rends hommage à Régis Debray qui a inventé cette discipline dont on ne parle pas assez, me semble-t-il. D'abord parce qu'il y a une confusion. La médiologie n'est pas la science des médias. Ça, c'est la grande erreur, c'est-à-dire l'espèce de bavardage qui permettrait de dire deux ou trois choses sur le fonctionnement de la télévision. Ça, c'est un contresens total. La médiologie, c'est la science qui s'occupe de la transmission des messages. Donc c'est au sens large du terme une discipline extrêmement intéressante parce qu'effectivement il y a des émissions et des réceptions de messages et qu'il y a 1000 façons d'émettre, 1000 façons de recevoir, pas seulement la télévision, la radio. Et Régis Debray a consacré à des cahiers de médiologie des interrogations et des réflexions à des sujets extrêmement intéressants comme l'autoroute, les routes, le vélo, par exemple, qui sont autant d'occasions médiologiques de réfléchir sur les transmissions d'informations. Et de fait, il faudrait une lecture médiologique de ce qu'a été le freudisme. Je propose une esquisse, là encore, puisqu'il s'agit de conclure plus en ouvrant qu'en fermant. Je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être traité, traitement médiologique du freudisme, comment le freudisme a pu devenir cette religion universelle qu'il est aujourd'hui. Donc d'abord, il a fallu que Freud se prenne pour une espèce de dieu. J'ai eu l'occasion de le dire dans une partie de réponse à des questions. Je pense effectivement qu'il y aurait à dire, mais j'ai fait savoir les limites qui étaient les miennes sur la question du judaïsme, donc je ne suis pas engagé sur ce terrain-là. Il y a quelques considérations dans le crépuscule d'une idole, mais Freud dit dans la préface à la traduction en hébreu de Totem et Tabou qu'il y a quelque chose en lui de viscéralement juif. Il nous dit « la science un jour dira probablement pourquoi, et quoi, et comment, mais il n'en dit pas plus ». Donc on peut imaginer qu'il y a une espèce de désir chez Freud de proposer une espèce de religion nouvelle. Il nous dit dans cette petite préface qu'il s'inscrit dans l'esprit du nouveau judaïsme, et l'esprit du nouveau judaïsme, me semble-t-il, il faudrait probablement le mettre en perspective avec son fameux mythe scientifique, relire Totem et Tabou. C'est pas par hasard que cette information se trouve en préface à la traduction en hébreu de Totem et Tabou, avec les questions de la horde primitive, du père, du meurtre du père, de la manducation du corps du père, de la fabrication de la loi, de l'espèce de remords qui a généré chez les enfants qui ont tué le père parce qu'il disposait du monopole sexuel sur les femmes, le remords qu'il y a eu après avoir commis ce geste qui aurait été générateur de la loi qui elle-même aurait permis la constitution de la civilisation, de la culture, etc. Donc on peut imaginer qu'il y avait chez Freud une espèce de désir de créer une religion, d'une certaine manière post-judaïque, judaïque et post-judaïque en même temps, qui aurait été l'occasion de refonder une civilisation, et que d'une certaine manière il est passé pas loin de son projet, mais ça encore, ce sont des hypothèses et je les soumets sans les développer précisément. Il aura voulu donc construire une religion et s'en donner les moyens. C'est-à-dire que Jésus tout seul, ça ne marche pas. Jésus, il a besoin de saint Paul. Et saint Paul tout seul, ça ne marche pas non plus. Saint Paul, il a besoin de Constantin. C'est-à-dire qu'il vous faut, vous avez le droit d'être un créateur de religion, mais si créateur de religion, vous n'avez pas le glaive avec vous, saint Paul, et si vous n'avez pas le pouvoir avec vous, l'empire, c'est-à-dire Constantin, ça ne marchera pas. Donc il vous faut vous construire en sachant qu'il vous faudra un saint Paul et qu'il vous faudra un Constantin, qu'il vous faudra l'occasion d'un empire, une occasion impériale ou impérialiste. Et pour ce faire, il crée une organisation militante extrêmement hiérarchisée, très bien faite et construite sur le mode de l'Église catholique. Comité secret, des lettres circulaires, des associations, des congrès, des écoles, des revues, des maisons d'édition, etc., etc. Enfin, tout est fait, vraiment. Je n'entrerai pas dans le détail parce que ça peut être un peu laborieux, mais tout est fait pour qu'il existe un maillage viennois, autrichien, européen, planétaire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des correspondants, des individus qui vous lisent, qui vous traduisent, qui vous éditent, qui vous diffusent, des congrès dans lesquels vous donnez la bonne parole, etc. Et de fait, la machine, elle est bien faite, parce que vous allez voir comment, là encore je vais esquisser, mais vous allez voir comment, quand on démarre tout seul, et comme un certain Jésus, vous pouvez réussir à obtenir des millions de disciples sur une planète entière, simplement parce que vous aurez fait fonctionner une machine de guerre qui se propose de fonctionner dans cette perspective, c'est-à-dire la prise du pouvoir intellectuel. Le comité secret, par exemple, est l'occasion, en 1912, de créer une petite association, vraiment très restreinte. Souvenez-vous, j'ai eu l'occasion de vous dire que s'il y avait une utopie politique chez Freud, elle se trouvait dans « Pourquoi la guerre ?», cet échange de lettres avec Einstein, et sa proposition, c'était un élitisme, une aristocratie destinée à mener les foules un petit peu plus tard. Les foules sont abruties, sont bêtes, sottes, stupides. Il reprend les analyses de Gustave Le Bon sur ce sujet, psychologie des foules. Donc il leur faut des chefs qui soient susceptibles de les conduire et de les diriger. Il faut pour ce faire une élite, une aristocratie, nous dit Freud. Eh bien, ça a fonctionné comme ça avec le fameux comité secret. Et le comité secret, au départ, c'est Otto Rank, Ferenczi, Jones, Abraham et Max Eitingon qui, en 1912, démarrent sur ce principe secret, caché, élitiste et élitaire d'un petit groupe. Jones écrit à Freud le 7 août 1912 qu'il crée, citation, « un petit groupe étroitement solidaire, chargé comme les paladins de Charlemagne, de défendre le royaume de leur maître et de veiller à l'application de sa doctrine ». Freud répond, extrêmement emballé, ouvrez guillemets, ce conseil secret, composé des meilleurs et des plus dignes de confiance d'entre nos amis, lui permettent, nous dit-il, d'envisager la vie et la mort avec sérénité. L'idée vient de Ferenczi et de Jones, qui sont tous les deux au départ dans ce désir de ne pas laisser Freud seul, et Freud s'approprie cette idée-là. Il écrit, le 1er août 1912, « Vous dites que c'est Ferenczi qui en a eu l'idée, mais il se peut que ce soit la mienne, formulée en des temps meilleurs. » C'est-à-dire que Freud ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas eu cette bonne idée, donc il nous dit qu'il l'a eue et que si les autres l'ont eue, c'est peut-être parce qu'il l'a fait savoir, et de fait, c'était à l'époque où il croyait beaucoup en Jung, en pensant qu'il lui fallait une espèce de disciple qui n'aurait pas été juif, parce qu'il trouve que ça fait beaucoup de juifs à l'origine de cette discipline, et qu'un non-juif, un protestant en l'occurrence, suisse, eh bien ça pourrait être très bien pour montrer que la psychanalyse est la vocation universelle. Il distribue des intailles à ses disciples. Les intailles sont des petites pierres précieuses ou semi-précieuses qui étaient taillées dans l'Antiquité et qui représentaient des figures, des figurines. Il y avait des intailles, par exemple, qui représentaient le portrait d'Épicure pour les disciples épicuriens. C'est-à-dire, on portait une bague, la pierre était montée sur une bague et le chaton de la bague, c'était l'occasion de se rappeler. L'imitation, je vous en parlais tout à l'heure, de se rappeler la figure d'Épicure. Eh bien ici, Freud offre des intailles, et vous savez qu'il est amateur d'art antique et qu'il collectionne des œuvres d'art sumériennes, égyptiennes, qui viennent d'Assur, de Babylone, d'Étrurie, de Rome, bien sûr, de Grèce ou de Grande Grèce. Et donc, il distingue les hommes, mais aussi les femmes, ce qui est assez singulier, c'est-à-dire offrir une bague à des femmes, surtout quand il s'agit d'Anna, puisque sa fille a droit à la sienne en 1920, mais Lou Salomé, l'épouse d'Ernest Jones, dont je vous parle souvent, cet homme qui fabrique la première biographie de Freud. Dorothy Burlingham, qui est la compagne d'Anna Freud, qui donc était homosexuelle, et puis Marie Bonaparte, qui a beaucoup fait pour Freud. Donc, il distribue ses intailles. Il y a le petit groupe constitué comme une espèce de garde rapprochée. Il y a également la Société psychologique du mercredi. Alors ça, c'est William Steckel qui démarre ça à l'automne 1902. Ça se passe au domicile de Freud et il y reçoit des médecins, des artistes, des psychanalystes aussi, puisque je vous disais tout à l'heure que c'était une science multiple, une science du moins avec des disciples multiples et que Freud n'avait pas inventé tout seul, mais qu'il était l'un d'entre eux et qu'il avait réussi à capter pour lui les bénéfices du travail de cet intellectuel collectif. Et Steckel dit dans son autobiographie, qu'il était l'apôtre de Freud, lequel était mon Christ, dit Steckel. Il ajoute, une étincelle jaillissait, se propageait d'un esprit à l'autre, et chaque soirée était comme une révélation. Donc on est effectivement dans cet esprit religieux, dans cet esprit d'une secte qui est dans la vénération de son idole. Il y a génie chez Freud, et Freud nous fait l'honneur de sa bonne parole. Donc il y a des cigarettes, des cigares, du café, des gâteaux, et ça discute longuement à chacune des séances. Il y a parfois jusqu'à 17 personnes, c'est pas beaucoup. Il y a chez Jésus, c'est des 12, un petit peu moins. Mais il y a des moments où il y a encore beaucoup moins que ça. Otto Rank devient le secrétaire de cette aventure. Il établit le registre des présences, fait rentrer les cotisations. Il effectue une synthèse des propos tenus. Et c'est intéressant parce qu'on dispose aujourd'hui de ces minutes et on voit qui dit quoi, comment ça fonctionne, comment ça se passe, les assemblées. On pourrait même se contenter de prendre une séance et de la donner sur scène, parce que c'est très théâtral, c'est réduit à l'os. Et Freud écoute, il laisse parler, et puis la plupart du temps, en fin d'intervention, les interventions sont obligatoires au début, on a obligation de prendre la parole, et Freud écoute et fait la synthèse. C'est-à-dire on sent bien qu'il fait son miel de toute cette aventure. On y examine des cas cliniques, on y parle des lectures qu'on peut faire. J'ai eu l'occasion en début d'année, quand on a examiné le rapport à Nietzsche, de vous dire que toutes les séances consacrées à Nietzsche avaient été l'occasion de savoir si c'était un philosophe important ou pas, si c'était un philosophe, quelle était la part de la maladie, si on pouvait s'en servir pour la psychanalyse. Il y a eu, j'ai consacré une partie d'une séance également à la masturbation, 11 séances exclusivement consacrées à ce sujet-là, ou les projets d'écriture. On raconte sa vie sexuelle aussi. Il y a des espèces de confessions publiques où on dit tel individu dit qu'il se masturbe et explique ce que sont ces somatisations ou raconte comment effectivement il y a une étiologie sexuelle des névroses, puisqu'il s'agit de donner raison la plupart du temps aux propositions faites par Freud. L'ambiance devient rapidement agressive, tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. On s'interroge sur la question de la paternité des concepts. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un moment extrêmement intéressant. C'est-à-dire que certains disent, mais après tout, on est un intellectuel collectif. Je le redis, c'est une expression de Bourdieu. Enfin, est-ce que quand l'Assemblée aura produit un concept, eh bien, est-ce que le concept appartient à l'Assemblée ? Ou est-ce que le concept appartient à celui qui l'aura fait émerger, sachant qu'on ne le fait pas émerger tout seul, mais que peut-être on aura été soutenu, aidé, poussé, tiré par la dynamique de cette assemblée, et il est décidé que chacun restera le propriétaire des concepts qui seront signés et estampillés. En 1907, Freud dit à Binswanger, parlant de cette assemblée-là, « Alors, vous avez vu maintenant cette bande ?» Pour vous dire dans quel état il tenait, dans quelle estime il tenait cette association. On crée ensuite la Société psychanalytique de Vienne. C'est la Société du mercredi qui en fournit la matrice. Et là aussi, ça continue exactement sur le même principe. Réflexion collective, communauté de l'analyse, dialectique de cette petite association qui montre bien que la psychanalyse est une aventure collective. C'est une aventure collective. Création d'un autre média, ou d'un autre moment médiologique, disons-le comme ça, la lettre circulaire. La première a lieu le 7 octobre 1920 et elle pallie le manque de correspondance entre les membres de l'association, du comité secret. Tous les membres du comité de secret n'habitent pas dans le même endroit. Et il s'agit de faire circuler les informations de manière un peu intime et secrète, d'abord une fois par semaine, puis ensuite tous les 10 ou 15 jours. Et on consigne les changements notables dans la doctrine, c'est-à-dire qu'on fabrique un corpus extrêmement précis. Il y aurait vraiment à mettre en perspective avec la fabrication du corpus chrétien, par exemple, pourquoi est-ce que l'évangile de Thomas ou les évangiles apocryphes ne font pas partie des évangiles synoptiques, et pourquoi est-ce que ce sont des évangiles qu'on ne reconnaît pas comme tels. Enfin, ce sont les conciles qui ont fabriqué ces prélèvements et qui nous diront ça c'est la doctrine, ça c'est pas la doctrine, ça c'est orthodoxe, ça c'est hétérodoxe, ça c'est la bonne doctrine, à côté c'est l'hérésie. Enfin, il y a des semblances, des façons à peu près semblables de faire fonctionner les comités et les conciles. Mais on verra que les congrès servent à ça également. Création en 1909 des annales de recherche psychanalytique et psychopathologique. On a besoin de revues, on a besoin de faire diffuser les informations. Les gens sont là, c'est bien, mais c'est mieux d'aller vers les gens quand ils ne sont pas là et d'entrer dans les bibliothèques, d'entrer dans les librairies, d'entrer dans les cabinets et les cercles où les gens peuvent discuter et commenter. C'est Jung qui est le rédacteur en chef et Freud y fait paraître son texte sur le petit Hans. Une autre revue en 1912, la revue Imago. Il s'agit pour le coup de faire fonctionner la psychanalyse sur les sciences humaines. Très rapidement, la revue a 230 abonnés. Une autre revue, mais pour le coup internationale, donc Revue internationale de psychanalyse, création par Rank, toujours en 1913, et c'est Anton von Freund qui était un brasseur et qui avait rencontré Freud, qui l'avait prétendument débarrassé des troubles névrotiques qu'il avait eus après un cancer. Il a donné une somme extrêmement importante et quelques temps après, il est mort. Je n'ai rien conclu sur les usages et sur les méfaits. Il crée évidemment une maison d'édition, Presse internationale de psychanalyse, toujours Rank comme directeur et fondateur, et puis les fameux congrès. Et là, effectivement, ce sont les grandes messes au cours desquelles, comme les conciles, si vous voulez, pour les églises, les grandes messes au cours desquelles on fabrique l'idéologie, on structure l'idéologie, et puis on considère qu'effectivement, il y a un corpus doctrinal. Donc, à l'évidence, la psychanalyse, je le répète, c'est toujours une aventure collective, une aventure communautaire. Aujourd'hui, on considère que ça se fait autour de Freud, mais à l'époque, il y a des penseurs et des pensées, je pense à Adler, je pense à Jung, et qui sont des gens qui sont très autonomes, très indépendants, et ils se feront rapidement laminer. Donc ce sont des occasions, ces congrès, de donner une orientation générale à la discipline et de faire savoir que la discipline, elle a un corpus, que ce corpus est figé et qu'il s'agira de composer avec ça. Et que si on ne veut pas composer avec ce corpus, alors à ce moment-là, on se fera exclure. 26 avril 1908, premier congrès à Salzbourg, fondation des Annales, 42 membres dans la salle, pour vous dire que c'est pas beaucoup. 9 communications, dont une faite par Freud, qui s'intitule « Remarques sur un cas de névrose de contrainte », c'est le fameux « L'homme aura ». 31 mars 1910 à Nuremberg, alors des affrontements avec Adler, dont je vous parlais tout à l'heure, propose une psychologie plus individuelle, qui ne croit pas au complexe d'Édipe, qui ne croit pas à l'étiologie sexuelle des névroses, il pense qu'effectivement il y a des étiologies sexuelles, mais pas tout le temps, et qui défend, lui, une psychanalyse qui est basée sur le principe de l'infériorité d'organes. Il nous dit qu'il y a une espèce de trauma à l'origine, et ce trauma à l'origine, c'est la plupart du temps une infériorité d'organes. C'est-à-dire que vous pouvez être trop grand, trop gros, trop maigre, trop petit, ou boiteux, ou bossu, ou je ne sais quoi, enfin. Et à partir de cette infériorité d'organes, vous avez le désir de compenser, qui va générer la totalité de votre projet existentiel. Et le complexe d'Édipe, Adler n'y croit pas. Exit Adler et les Adlériens. Donc, éviction des Viennois, c'était un psychanalyste de Vienne, Adler, au profit des Zurichois. Et les Zurichois, eh bien, ce sont très précisément Jung, dont je vous parlais tout à l'heure, et les Jungiens. Là, c'est la lune de miel avec Jung et les Jungiens. À cette époque, Ferenczi propose la création de l'Association internationale de psychanalyse. Jung devient le premier président. Donc il s'agit de se structurer de manière planétaire. 21-22 septembre 1911, congrès de Weimar. Il confirme la lune de miel entre Jung et Freud. Et quand vous lisez la correspondance entre ces deux hommes, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est formidable. Et l'année d'après, septembre 1913, Munich, rupture avec Jung. Ça, c'est tout un domaine aussi. Il y aurait une année entière à expliquer ce qu'ont été les pensées particulières de Karl Abraham, justement d'Adler et de Jung, puisque ce sont ceux dont on parle souvent, mais de Ferenczi, d'Otto Rank, qui, pour les uns et les autres, avaient des propositions à faire, et des propositions qui ont toutes été violemment écartées par Freud, bien sûr. En 1918, à Budapest, on échange sur les névroses de guerre, et ça aussi, ce serait important à développer. Je pense que la psychanalyse a dû son essor au fait qu'après la guerre, il y avait, pendant aussi la guerre, mais après la Première Guerre mondiale, il y a eu un usage de la psychanalyse à des fins thérapeutiques un peu rapides. Et donc ça a produit des effets de réputation qui ne sont pas négligeables. Discussion également sur des possibilités de dispensaires gratuits. On se doute bien que, souvenez-vous ce que je vous avais raconté avec Freud, hein, que Freud veut que les séances soient payantes, qu'elles soient donc très coûteuses. Et plus c'est coûteux, plus normalement vous investissez dans la cure, et plus normalement la cure doit aller vite. Et il nous fait savoir que quand on ne paie pas, eh bien ça ne produit pas d'effet et qu'il n'est pas question pour lui de soigner les pauvres. Les choses sont clairement dites. Donc il y avait des gens qui, comme Adler, parce que ça aussi il faudrait faire une lecture politique des scissions, Adler était un homme de gauche et Freud, comme on l'a vu, un homme très à droite. Eh bien, il y a eu des oppositions politiques, comme il y aura des oppositions politiques avec Reich. Adler considérait qu'il fallait ouvrir la psychanalyse individualiste, il l'appelle comme ça, la psychanalyse individualiste, aux gens pauvres, aux gens modestes, aux ouvriers, aux gens qui n'avaient pas d'argent, et d'obtenir donc des dispensaires et des gratuités. On sait que dans cette aventure, Freud a triomphé pendant longtemps, et s'il y a aujourd'hui des dispensaires et des psychanalyses gratuites ou remboursées par la Sécurité sociale, ce n'est pas doctrinalement correct d'un point de vue freudien, mais c'est très bien que ça ait lieu tout de même. 8 et 11 septembre 1920, congrès à La Haye. Là, pour le coup, on réconcilie les analystes qui sont des anciennes nations belligérantes. Il y a donc cette fameuse Première Guerre mondiale qui opposait, entre autres, l'Autriche avec, et l'Angleterre. Donc, d'une certaine manière, Freud et Jones. Et Freud était très nationaliste, très belliqueux, très belliciste, très anti-français. Et quand il écrivait à Jones, il écrivait en anglais, et le temps de la guerre, il a arrêté d'utiliser la langue de l'ennemi, et il s'est mis à lui écrire en allemand. Et quand la Première Guerre mondiale s'est terminée, il a repris l'anglais, puisqu'il pratiquait l'anglais, il pratiquait aussi le français, Freud. 23 et 27 septembre 1922, congrès de Berlin, extrêmement intéressant, une intervention de Karen Horney, qui est une femme qui met par terre toute la théorie misogyne de Freud sur la question de l'envie du pénis. L'occasion de vous expliquer que c'était constitutif pour Freud. Les femmes ne sont ce qu'elles sont que parce qu'il leur manque un pénis auquel elles aspirent, et c'est ce qui les détermine absolument. Et Karen Horney, là aussi, des pistes de travail, des pistes féministes, donc intéressantes, puisqu'on est quand même dans une perspective très misogyne chez Freud, mais qu'il existe une psychanalyse féministe dès Karen Horney, dès 1922 et dès ce congrès de Berlin, c'est une bonne nouvelle, une idée intéressante. 1925, à Bad-Homburg, Freud n'est pas là. Le cancer le fait trop souffrir. Et donc, de manière assez perverse, il a écrit un texte sur la sexualité féminine, qui est un texte extrêmement misogyne et le texte fondateur de la phallocratie. Et il demande à sa fille Anna de lire le texte au congrès. Bien sûr, elle s'exécutera. Max Eitingon, lui, intervient sur les questions de conditions d'admission dans les instituts psychanalytiques. C'était extrêmement intéressant. Est-ce qu'il faut des médecins ? Est-ce qu'il faut des gens qui soient formés à la médecine classique ou traditionnelle ou pas ? Freud considère qu'on n'a pas besoin d'être médecin et que c'est même mieux de ne pas être médecin. Et quand il y a une discussion sur la question du charlatan, Freud dit que les médecins sont plus souvent des charlatans quand ils s'occupent de psychanalyse que les analystes. Il considère que la bonne formation pour un analyste, ce n'est pas le diplôme, mais c'est l'adoubement par un psychanalyste qui lui-même aura été adoubé par Freud. Pardon. Freud s'adoube lui-même, l'auto-analyse, ensuite il adoube ses disciples, les disciples adoublent des disciples, et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'autre formation que la psychanalyse faite chez un autre psychanalyste qui vous permettra de vous dire psychanalyste. Voilà pourquoi aujourd'hui, les psychanalystes ne veulent pas être, comme ils disent, évalués. Moi, j'aime bien, quand je rentre dans un bloc opératoire, que le chirurgien a été évalué et qu'il ait les diplômes qui lui permettent de pratiquer la chirurgie. Ça me paraît plutôt bienvenu. Mais en matière de santé mentale, on n'y est pas. Max Eitingon considère également qu'il faut réfléchir sur la question de l'analyse didactique. L'analyse didactique, c'est l'analyse qu'on fait pour pouvoir être psychanalyste. Donc vous faites une analyse et vous devenez analyste. Et quand vous êtes analyste, vous êtes suivi toujours par votre analyste qui fait du contrôle de votre analyse. Et donc Eitingon souhaitait discuter sur ces conditions-là, comment est-ce qu'on mène à bien une analyse didactique. Et puis une réflexion un peu plus précise sur la formation des analystes. 1929, congrès d'Oxford, continue à représenter son père, n'a pas grand-chose à dire à proprement parler, si ce n'est que Freud a fait tout ce qu'il fallait dans son existence pour que sa fille n'ait pas de relation sexuelle avec un homme, et là-dessus, il y aura réussi. Et il l'a mis en garde à l'endroit d'Ernest Jones, et il recommence en lui disant « Attention à Jones, fais attention, il n'était pas question pour Anna d'avoir une aventure amoureuse et même conjugale avec Ernest Jones. » Freud lui a fait le conseil de ne pas prendre trop au sérieux Ernest Jones. 1932, congrès de Wiesbaden, rupture avec Ferenczi, vous avez vu, à chaque fois qu'il y a eu, des hommes importants autour de lui, il y a eu rupture, Adler, Jung, Ferenczi, Rank, enfin tous les gens importants qui auraient permis de faire de la psychanalyse une aventure collective ont été lâchés les uns après les autres. À partir de ce moment-là, Freud va commencer à dénigrer très violemment son ami. Tout ce qu'il aura su d'extrêmement intime le concernant, il en fera un usage public. 1938, à Paris, Freud n'est toujours pas là, mais Anna le représente toujours, et elle lit donc un morceau de l'analyse de son Moïse et le monothéisme. Et puis, Freud meurt en 1939. Je m'arrête pour ces congrès-là, simplement pour vous faire voir qu'effectivement, on construit la discipline, on construit la psychanalyse, on adoube, on exclut, on intègre, on met à la porte, on considère qu'il y a des orthodoxes, ceux qui considèrent que Freud est génial et qu'il a raison, et puis des hétérodoxes, ceux qui considèrent pas forcément que Freud a tort, mais que peut-être on peut penser autrement, qu'on peut ajouter une autre pierre au même édifice, mais pas forcément une pierre freudienne. Tous ces gens-là sont éjectés. Assiette au beurre, ça dégage régulièrement et pendant extrêmement longtemps. L'association créée en 1910, quand je vous disais les gâteaux, le café et puis la tabagie, etc., 5 ou 6 personnes parfois. Et la création de l'association, elle s'étend aujourd'hui, 2010, sur 33 pays. Elle rassemble 11 000 membres et la psychanalyse a pénétré la totalité des consciences. Je vous disais tout à l'heure, tout le monde est plus ou moins convaincu que sublimation, libido, complexe d'Édipe, etc., tout ça, ce sont des vérités universelles. Rappelez-vous, 1902, dans la société du mercredi, parfois jusqu'à 6 personnes, et dans chacun des congrès dont je vous ai parlé, eh bien, l'Assemblée était inférieure à 100 personnes. Troisième raison, est-ce que je la développe ou pas? Elle est un peu longue. Troisième raison, eh bien, si vous êtes gentil, vous y aurez droit la prochaine fois. Je l'intégrerai puisqu'il y a en fait 5 raisons, je vous propose 5 raisons, j'ai été un peu long sur tout ça. Et en fait, j'intégrerai cette troisième raison dans le cours suivant, puisque, donc, vous avez vu, il y a une première raison qui est le sexe, l'une des raisons du succès, le sexe, la libération du sexe refoulé. D'un seul coup, on se met à parler de quelque chose qui a été placé sous le boisseau pendant des siècles. La deuxième raison, le glaive, l'équivalent de Saint-Paul et du paulinisme. Il s'agit de s'organiser en machine de guerre. Et puis, donc, on verra la fois suivante comment ça s'est constitué, la psychanalyse, comme une religion. Comment le schéma de la vie de Jésus a été un schéma à partir duquel on a construit la vie légendaire de Freud. Comment le schéma de la construction de l'Église, de l'Église chrétienne, est finalement devenu le schéma de construction de l'Église freudienne sur la totalité de la planète. Donc effectivement, c'était une espèce de coup de génie. Et puis on ajoutera deux autres considérations, deux autres raisons. L'une, on pourrait appeler ça le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Le nihilisme, je crois que la guerre 14-18 a été quand même une boucherie européenne sans nom, que la vie n'avait plus de sens, que dans tous les villages on a perdu des pères, des frères, des amis, des voisins, des cousins, qu'il y a une saignée totale de la France et de l'Allemagne avec cette Première Guerre mondiale, et que de fait on voit pas trop le sens de la vie ou le sens de l'existence. Et dans cet esprit-là, dans cette époque-là, il y a une espèce de nihilisme assez généralisé. C'est pas un hasard si ça correspond avec le futurisme et l'aspect un peu nihiliste du futurisme. Et je pense que l'espèce de nihilisme, et je vous dirai en quoi je pense que le freudisme est un nihilisme, le nihilisme freudien rentre en consonance avec le nihilisme de l'époque. Et puis une dernière raison, parmi d'autres, je vous le répète, le grand malentendu de mai 68, puisque mai 68 a fait un certain usage de Freud, qui a été un usage de gauche, révolutionnaire, libertaire, libérateur, et que nombre de gens ont cru que effectivement Freud c'était la libération sexuelle, que le freudisme et la psychanalyse c'était la panacée, et nombre de gens déçus par mai 68 parce qu'ils ont attendu une espèce de grand soir qui n'est pas venu, mais c'était pas non plus le but de mai 68. On le sait aujourd'hui, c'était une révolution métaphysique, c'était une révolution anti-autoritaire, elle a produit son effet. Ça n'a pas été une révolution politique, ça a même été une contre-révolution politique, et je pense que cette contre-révolution politique qui a déçu des trotskistes, des maoïstes, des marxistes-léninistes, des communistes, ou simplement des gens qui avaient envie d'une espèce de grande révolution d'après le général de Gaulle, a généré une espèce de grand malaise, et que des psychanalystes se sont trouvés là, notamment dans la personne de Jacques Lacan et des Lacaniens, qui ont rendu possible le divan comme une espèce d'issue possible à cette espèce de déprime post-68arde. Et on verra qu'il faudra intégrer cette raison-là comme une des raisons qui expliquent le succès de la psychanalyse. Et pour ce soir, ce sera tout. Merci. Donc, je vous ai parlé d'Adler et de Jung. Adler, par exemple, eh bien, Le sens de la vie. Je n'ai pris qu'un titre parce que c'est le titre le plus synthétique, et c'est sous-titré Études de psychologie individuelle. Et en langue française, vous avez Introduction à la psychologie d'Adler de Catherine Rager à la chronique sociale. Ce n'est pas un mauvais livre, mais ce n'est pas non plus un très grand livre. Je pense que Adler mériterait mieux que ça. J'en parlerai un petit peu plus tard, il faudrait aussi lire ou relire Pierre Janet, qui est un des personnages considérables en France et qu'on a oublié, et qui d'une certaine manière aurait pu être l'inventeur de la psychanalyse s'il a vu le culot et l'audace. Clientèle de dispensaire, travail clinique extrêmement important, une œuvre abondante, une trentaine de volumes, à peu près 500 articles, jamais réunis, jamais rassemblés. On peut aussi lire Jung, dont il vient de paraître une biographie qui est pas vraiment extraordinaire, enfin je vous la conseille parce qu'elle vient de paraître et qu'on a deux ou trois informations sur lui. Jean-Jacques Antier, Carl Gustav Jung ou l'expérience du divin aux éditions des presses de la Renaissance. Jung est un personnage complexe auquel il faudrait s'attaquer aussi, mais on peut le lire. Alors deux choses, Dialectique du moi et de l'inconscient. Ça, c'est un des grands textes, mais il y a beaucoup de livres de Jung, donc j'ai choisi ça. Et puis, Ma vie, qui vient d'être édité en folio, Roland Jacquard avait publié dans une jolie collection, c'est toujours une collection intéressante, Perspective critique aux presses universitaires de Freud, de France, Freud, jugements et témoignages, des textes, c'était bien de le faire, parce que Jacquard est assez freudien, il a fait un petit Freud pour la collection Que sais-je, qui est bien fait. Mais qui est très hagiographique aussi, mais on y trouve des textes notamment de Wittgenstein, de Zatz, de Sartre, qui sont des textes un peu critiques, et c'était pas mal d'avoir l'audace d'être un peu critique sur Freud à l'époque, qui était encore plus freudienne qu'aujourd'hui. Anne Millet, psychanalyste, qu'avons-nous fait de la psychanalyse ? Un travail extrêmement intéressant d'une psychanalyste qui n'est pas dévote, psychanalyste qui est capable d'intégrer les critiques qui ont été faites à Freud, de considérer effectivement que la psychanalyse doit être appréhendée de manière dialectique. Donc c'est un livre bien fait. Et puis Lou Andreas Salomé, cette correspondance avec Sigmund Freud, qui est suivie du journal d'une année 1912-1913. Et de fait, on voit bien, me semble-t-il, quand on lit les correspondances, que la psychanalyse a vraiment été une aventure collective que Freud aura récupérée à son seul et unique bénéfice. Voilà pour la biblio.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Joël Migne. Prise de son, Pascal René, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les raisons d'un succès, deuxième volet. Thank you.